Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue dans le Carnet de Région, magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Tout au long de ce mois de février, c'est l'équipe de Radio Alliance Plus qui en assure la rédaction en chef.
Nous aurons un premier reportage en ouverture avec le label Grande Cause Nationale 2014 accordé à l'engagement associatif, un reportage de RCF Maguelone Hérault.
Ensuite, nous aurons un reportage de Radio Escapade. Les campagnes municipales se déroulent aussi sur Internet, un nouveau moyen pour les citoyens d'interpeller leurs candidats.
Nous aurons ensuite deux reportages de 48 FM présentés par Ludovic Thérol.
Des propositions pour enrichir le projet de loi Égalité des territoires.
Et une réflexion sur la politique culturelle de la région Languedoc-Roussillon.
Un reportage de Radio Pays de l'Hérault, la région de plus en plus souvent à l'écran.
Pour commencer, vendredi dernier, Jean-Marc Hérault a décidé de mettre les associations en avant. Le Premier ministre a décidé de valoriser et de promouvoir le rôle des associations et de ses bénévoles. Un label qui leur permettra d'obtenir des diffusions gratuites sur les radios et les télévisions publiques, ceci lorsqu'elles souhaiteront organiser des campagnes faisant appel à la générosité publique. Emmanuel Fagnou est le directeur départemental du Secours catholique de l'Hérault. Il prend cette nouvelle avec enthousiasme, espérant voir le nombre de bénévoles augmenter. Un reportage de Cédric Combé de RCF Maguelone Hérault.
On est très content de cette décision du gouvernement parce que c'est avant tout une reconnaissance du rôle et des missions essentielles que des associations de bénévoles comme la nôtre on assume. Donc c'est pour nous une très très bonne nouvelle. Alors ce qu'on attend nous au niveau d'une association Secours Catholique, c'est que comme on est avant tout une association de bénévoles, c'est de recruter plus de bénévoles pour que chacun puisse s'engager dans la vie de la cité. Donc pour nous, on le prend comme une formidable opportunité pour mieux faire comprendre à chaque citoyen qu'on peut aussi s'engager à son échelle ou dans une association comme la nôtre ou dans n'importe quelle association d'ailleurs. Mais on est avant tout sur une reconnaissance par l'État que la mobilisation de chaque citoyen dans une structure organisée dans une association est quelque chose de très intéressant.
En plus de tout ça, Emmanuel Fagnou pense que grâce à cette mise en avant, il sera possible de développer encore un peu plus les missions déjà en place.
La possibilité pour nous de développer des nouveaux projets, puisque dans la charte qui a été aussi proposée par le gouvernement, il y a un meilleur travail avec les collectivités locales. Donc nous, c'est quelque chose sur laquelle on croit beaucoup, parce qu'on est persuadé que ce soit une mairie, un conseil général ou une intercommunalité, on a beaucoup de choses à partager ensemble. On le fait déjà beaucoup, nous on travaille énormément avec les CCS dans les différentes villes de l'Hérault, et ça c'est un point essentiel, parce qu'on essaye de trouver la meilleure articulation possible entre les différents acteurs.
En déclarant grande cause nationale, l'État espère sensibiliser les Français aux enjeux de cet engagement. Aujourd'hui, la France compte 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés travaillant dans une structure associative.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
À Saint-Hippolyte-du-Fort, dans les Cévennes gardoises, comme partout ailleurs, la campagne pour les élections municipales du mois de mars prochain a déjà bien commencé. Il est souvent difficile lors de ces campagnes de trouver de réels lieux d'échange et de débat pour parler avec les candidats, mais aussi les autres citoyens. À Saint-Hippolyte, Marc Peters a donc créé un outil intéressant, un forum Internet. Sur www.voxcigali.org, les Cigalois, habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort, peuvent questionner, interpeller, s'exprimer sur des sujets qui concernent des enjeux de leur commune. Marc Peters l'explique au micro de Frédéric Marie de Radio Escapade.
Voxigali, c'est un forum participatif sur Internet qui a comme but de, en s'appuyant sur un moment fort, qui sont les élections municipales 2014, de créer un espace, de susciter un débat public un petit peu pour combler, disons, les vides qu'on peut avoir et la latence entre les rendez-vous que nous fixent les candidats. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans ma tête, je pense que ça peut aussi être un forum permanent, en fait, de discussions, d'échanges, de partage de connaissances sur des sujets, parce que je pense que la vie d'une commune peut paraître simple, en même temps elle est complexe. Donc je pense qu'on a beaucoup d'idées et de questions surtout, qu'on ne sait peut-être pas forcément où poser, ou alors des idées qu'on a envie de partager, et on peut le faire sur ce forum-là. C'est un outil surtout citoyen. J'ai bien précisé dans l'avant-propos sur le site qu'il ne faut pas que ça devienne un outil de campagne supplémentaire ou complémentaire pour les candidats. Bon, évidemment, il est peut-être difficile de tracer une limite entre ce qui est de l'ordre de la campagne, d'une campagne dans les propos, et ce qui ne l'est pas. Mais ça, forcément, puisqu'on pose des questions ou on pose des sujets qui ont trait avec la vie de la commune, la gestion de la commune. Mais bon, c'est là le rôle de modération qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement dans ce sens-là.
Par décret du Premier ministre, le sénateur de la Lozère, Alain Bertrand, a été chargé d'une mission auprès de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Sa mission consistera à élaborer une série de propositions qui enrichiront le projet de loi « Égalité des territoires », des mesures visant au développement des territoires hyper-ruraux, comme la Lozère. Le sénateur de la Lozère, qui a insisté, comme toujours depuis le début de son mandat, sur le terme d'hyper-ruralité. Au vu des finances de la France, des propositions touchant la ruralité qui compose 90% du territoire français, n'aurait eu que peu de chances d'aboutir. Mais en ciblant l'hyper-ruralité, et donc seulement une dizaine de départements, les nouvelles mesures seront plus faciles à faire passer. Et le sénateur de la Lozère va aller à la rencontre des élus du département et des spécialistes pour établir ces propositions qui doivent être rendues à Cécile Duflot dans 6 mois. Écoutez Alain Bertrand au micro de Ludovic Terol, de 48 FM.
J'ai voulu réduire les cibles, parce que tout le monde sait que le pays est dans une position financière dure, où les marges de manœuvre sont faibles. On le voit quand on aborde le problème des infrastructures, de la 88 par exemple. Donc moi, on me demande de faire des propositions nouvelles. On me dit d'enrichir le volet consacré à l'égalité des territoires dans le futur projet de loi. C'est le Premier ministre qui me le dit. Et donc, moi, j'ai choisi l'hyper-ruralité parce que je sais que sur un groupe de 10 départements, je peux faire des propositions d'organisation nouvelle, des propositions aussi de mesures nouvelles qui auront un coût, et ce coût peut être acceptable aujourd'hui budgétairement. S'il concernait 90 départements, il serait difficilement acceptable, et ce serait une mission, comme des centaines d'autres, qui n'aurait aucun résultat. Moi, je reste sur une mission pragmatique, dont je rêve depuis de nombreuses années, et qui doit nous amener à progresser substantiellement. Je vais préconiser, par l'intermédiaire de cette mission, un panel de mesures qui auront pour objectif de mettre l'hyper-ruralité en capacité de rebond. Alors ça passera par un quid de la fonction publique, comment on peut, pour la fonction publique, être en position de développement et non en position de recul permanent, comment on peut adapter la loi, comment pour les entreprises on peut être en position de développement et non en position de recul permanent, comment pour les infrastructures, notamment, on peut être en capacité de développement et non en capacité d'attente et de recul permanent.
Josiane Colloré, la vice-présidente du conseil régional en charge de la culture, et Fabrice Manuel, directeur de la culture, étaient à Mende dernièrement pour rencontrer les acteurs culturels de Lozère afin de discuter avec eux de la politique régionale en la matière. Car en période de crise, ce sont souvent les sports et la culture qui trinque en premier. Alors qu'en est-il? Tous les festivals qui sont subventionnés à plus de 10 000 euros vont voir une baisse de 5% de leur dotation. Les arts de la rue et les musiques actuelles pour la jeunesse et musique du monde vont voir leur budget légèrement augmenter au niveau régional. Le budget de la culture est à l'ordre de 45 millions d'euros. Au micro de Ludovic Thérol de 48FM, Josiane Colleret y répond.
Le président Bourquin n'a jamais fait et ne fera jamais du budget de la culture une variable d'ajustement du budget global. C'est vrai que nous sommes en crise, c'est vrai que nous avons une baisse de notre budget, notamment sur le fonctionnement, mais au profit de l'investissement. Mais tout le monde, tous les secteurs de la région mettent un peu dans le pot commun en fonction de chacun de leur budget. On le fait dans la solidarité et, je vous dis encore une fois, au profit quand même de l'investissement pour l'emploi. On a quand même bien investi tous les départements et la Lozère n'a pas été laissée de côté ni par Georges Fraîche ni par Christian Bourquin. Si on fait des ratios, je pense que la Lozère est bien servie dans le domaine culturel. Ça veut dire que, y compris dans ce domaine, elle se développe pour le bien des artistes, pour le bien du public et des gens. S'intéresser comme ça à la culture et se développer à partir de la culture aussi, faire rayonner son territoire comme ça, c'est plutôt bon signe pour l'avenir de la Lozère.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Courts et longs métrages, documentaires, séries, les réalisateurs choisissent facilement le Languedoc-Roussillon pour poser leur caméra. Une quarantaine de films ont été tournés l'an dernier dans la région. On peut citer par exemple la série Candide Renoir ou le long métrage Un beau dimanche, le dernier film de Nicole Garcia, qui ont été tournés en région Languedoc-Roussillon. Les aides peuvent atteindre les 200 000 euros. Si ce choix du Languedoc-Roussillon est fait, c'est grâce notamment au travail de Languedoc-Roussillon Cinéma, émanation du conseil régional constitué en association. Voici des précisions sur le but de cette structure. Karim Ghiati, son directeur, a été interviewé par Adrien Delgrange de Radio Pays de l'Hérault à l'issue de la projection de Suzanne à Clermont-l'Hérault. Suzanne, un long métrage tourné à 7 et dans le Gard.
Là, en fait, je trouve que le fait de venir présenter un film, ça permet de bien présenter la structure. Parce que quand le film est terminé, c'est le moment où il y a la rencontre avec la salle. Et nous, Languedoc-Roussillon Cinéma, notre travail, notre projet, c'est de suivre les films sur le temps long. C'est-à-dire au moment du tournage, au moment de la préparation, au moment du tournage. Alors à la fois dans les lieux où le film va être tourné, et également faire le lien avec ceux qui travaillent ici dans la région et qui peuvent potentiellement travailler sur ces films. Le lien aux salles et aux festivals pour montrer les films, et puis également le lien aux enseignants et aux élèves pour proposer des prolongements pédagogiques. Donc je trouve que voilà, Suzanne, je trouve que c'est un assez bon exemple également de ce qu'on fait, mais alors par ailleurs on travaille aussi sur les courts-métrages, sur des documentaires, sur des films. Vraiment le moteur c'est le film et l'objectif de la structure c'est le public, et entre les deux essayer d'avoir un impact sur la création, d'accompagner ceux qui sont installés notamment ici, qui ont des désirs de cinéma et qui font des films, et les aider ceux qui veulent aussi en faire. Et puis vraiment avec toujours l'objectif de fabriquer des ressources et de satisfaire le plaisir et le désir des publics.
Donc c'est une émanation du Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Les élus, quand ils l'ont créé, donc il y a 7-8 ans, ils ont pensé à quoi ?
Alors, précisément, la structure Languedoc-Roussillon Cinéma est une association, loi 1901, qui est financée effectivement majoritairement par la région, également par l'État, par la DRAC, et de manière minoritaire, mais importante à signaler, par la ville de Montpellier, par le conseil général du Gard. Et l'idée, c'était vraiment de prolonger la politique culturelle de la région et de l'État, ici. Alors, la région, sous l'aspect bureau d'accueil, lien professionnel, et de l'État, via l'éducation à l'image. Et en fait, pour moi, maintenant, j'en suis directeur depuis presque 3 ans, le projet, c'est de relier tout ça. C'est de relier tous ces moments, relier le plateau de tournage à la salle de cinéma, relier le comédien professionnel avec le cinéphile et l'étudiant, voilà, relier le producteur et les personnes qui sont les cinéphiles, qui sont les spectateurs, qui vont découvrir le film. Voilà, donc l'idée politique À l'origine, c'était vraiment, et ça l'est toujours, c'est-à-dire d'être la cheville ouvrière et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de films ici, de les accompagner au mieux, et que de structurer la filière professionnelle. Et après, pour moi, le projet de la structure, c'est à la fois ça, et c'est aussi faire le lien entre le film et le public.
Ainsi se termine notre carnet de région de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.